Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler de temps qui court, tous les soirs, une heure avec un ou une artiste ce soir, Arnaud Catherine.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Arnaud Catherine.
Je suis un prédateur joyeux, à la recherche de sa prochaine proie, impatient de vous dépecer et ravi à l'idée que les hyènes passeront à côté de votre cadavre, sans rien remarquer, ni des restes qu'elles auraient à terminer, ni du butin dont j'ai joui et que j'emporte jalousement dans mon carnet. Ce sont vos mots, Arnaud Catherine, tirés de ce livre hybride dans lequel vous inventez des vies, autant que la vôtre peut-être, et où une réflexion sur le métier d'écrire jouxte la mise à nu de fantasmes qui sont acquis exactement. Le livre est dédié à nous, croisé peut-être au hasard, mais aussi à un personnage de roman, à son autre extrémité. Alors quand vous écrivez que c'est faux, on ne sait pas s'il faut vous croire, et quand vous semblez dévoiler du vrai, on se doute que c'est plus compliqué que ça. J'entends des regards que vous croyez muets, procèdent par petites textes dont les titres apparaissent à la fin du livre, comme sur la couverture d'un disque. Il est paru aux éditions Verticales. Bonsoir à vous, Arnaud Catherine.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. On commence par une autre autrice, 1999, Camille Laurence.
Toute vie peut être un roman. À partir du moment où on le décide, je crois que toute vie est romanesque et qu'on peut raconter à partir de presque rien. Enfin, du moins... On peut trouver dans toute vie des détails qui vont aussitôt prendre une importance romanesque. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ce que fait Sophie Kahl. Si j'avais les moyens, pas seulement financiers, mais peut-être, mentaux, je ferais ça. Je trouve ça fascinant de... d'élire quelqu'un comme ça un peu au hasard et puis de le suivre et de voir ce qu'il fait et de raconter. Et quand on raconte, il y a forcément une part d'imagination et ça, c'est formidable. En même temps, je pense que les gens qui vont voir un détective, précisément, ne veulent rien laisser à l'imagination. C'est-à-dire que faire suivre quelqu'un... C'est vouloir être toujours là, même quand on est absent. C'est-à-dire, plutôt que d'imaginer ce que fait l'autre quand on est soi-même absent, quand on est séparé, on paie quelqu'un pour nous dire tout ce que cette personne fait en notre absence.
C'est Camille Laurence, donc, dans Des Nuits Magnétiques, qui était consacrée à la fois au métier d'écrivain et à celui de détective. Elle fait l'hypothèse que toute vie peut être romanesque et qu'il suffit de l'élire. Est-ce que c'est un peu comme ça que procède ce livre-là, Arnaud Catherine ?
Absolument.
Par des élections ?
Absolument, avec l'idée, et ça c'est quelque chose qui est sans doute, je m'avance un peu, apparu avec le romanesque du XXe siècle, avec l'idée que des gouffres, des drames, des choses très exaltantes peuvent se jouer dans un bac à sable ou dans un évier, dans ce qui paraîtrait alittéraire a priori ou aromanesque. Et c'est vrai que dans mes filatures, puisque ça a été des filatures, à partir du moment où j'ai vraiment eu l'idée de ce projet et décidé d'en faire un livre, je me suis attaché à essayer de poser mon regard là où, a priori, mes yeux auraient balayé un détail, voilà, n'auraient pas fait cas de ce détail. Donc, aller chercher dans l'infiniment, a priori, inintéressant. Voilà, donc il y a de ça.
Et en même temps, quand vous dites « a priori mes yeux seraient passés dessus », mais finalement peut-être pas, peut-être que votre façon d'écrire depuis toujours, c'est précisément parce que vos yeux ne passent pas là-dessus. C'est précisément parce qu'en fait vous vous attardez sur ce qui serait pas intéressant ou pas digne de rentrer dans un texte.
Non, c'est vrai, c'est pas une première fois. C'est pas une première fois. Je me souviendrai toujours de ma meilleure amie qui me lit depuis toujours et qui maintenant est éditrice. Et elle m'avait dit, il faut absolument que tu apprennes à perdre ton temps. Parce que vraisemblablement, j'étais dans une efficacité narrative. Et elle m'avait dit, c'est dans les détails que tel personnage existera, dans tel pli du vêtement, dans tel geste imperceptible, mais qui dit tout, parce que tout ne peut pas être dit. Et donc elle m'avait appris ça. J'aime beaucoup cette expression, perdre son temps. Donc vous avez raison, ça fait longtemps que j'essaye de cultiver cette attention à l'infiniment petit qui en fait révèle, je l'espère du moins, c'est mon vœu, quelques infiniment profonds.
Ça veut dire qu'il y a vraiment une sorte de dispositif que vous avez décidé de mettre en place en vous disant ce livre il commence, je commence à incarner et à partir de maintenant ça deviendra une forme.
Il y a eu un à partir de maintenant qui n'était pas au départ, c'est-à-dire que j'étais à l'époque, c'était il y a 2-3 ans, sur un projet assez vaste pour jeunes adultes à la place du cœur, qui a été une série en 3 tomes. Et c'était vraiment une écriture au long cours, assez ample, qui m'obsédait littéralement. Il y avait la nécessité d'écrire un tome après l'autre pour pas laisser les lecteurs trop en carafe. Bref, ça prenait tout mon temps et j'avais besoin d'échapper. Et j'avais ce vice qu'on a tous en fait, hein, consistant à regarder des gens, notamment dans le métro, dans les transports en commun, et à essayer de leur inventer des vies, ou en tout cas d'être intrigué par les quelques indices qui peuvent poindre sur un visage. Et donc je fais ça, comme tout le monde, j'y prends un vrai plaisir, et un jour j'ai commencé à prendre des notes. Et j'ai commencé à noircir des cahiers comme ça, mais ça restait vraiment très clandestin à tous les sens du terme, j'en parlais à personne. Et j'en ai parlé un jour comme ça, à un écrivain que j'aime beaucoup, Arnaud Bertina, qui m'a dit « Pourquoi tu n'en ferais pas un livre ? Tu as beaucoup pratiqué la fiction, tu es très intéressé par le documentaire, tu l'as un petit peu pratiqué sur cette même chaîne à France Culture, essaye d'en faire un projet littéraire. » Ça m'a tout de suite emballé, et donc là j'ai systématisé le geste. C'est devenu un projet. D'un petit vice intermittent, c'est devenu un projet. Et là, je n'ai cessé de me balader, ça devenait un petit peu obsédant d'ailleurs, avec des carnets. Quand j'en avais pas, je dictais à mon portable. Et là, j'étais, comme vous l'avez lu au début de cette émission, vraiment un prédateur en quête d'une proie. Donc là, c'est devenu une activité de regard et d'écriture assez systématique, quotidienne, sachant que j'ai noirci des cahiers et que j'ai jeté beaucoup de choses.
Et c'est marrant que vous passiez par l'idée du documentaire, parce qu'en fait, il y a bien sûr l'idée du regard qui est très très important dans ces différents textes, et avec plein d'obliques différents, plein de points de vue très très différents. Mais en même temps, je disais aussi dans l'introduction que le vrai et le faux, très rapidement, on se dit « Ouh là là, je ne sais pas à quelle sauce je suis mangée oui. », quand il peut être en train de me parler de lui, en train d'écrire ce qui donne des effets de vrai, peut-être c'est complètement faux. Donc la question du documentaire, elle est là aussi comme une zone très trouble, Arnaud-Catherine.
Comme une amorce, mais vous avez raison, tout est sujet à caution, et il y a même une part ludique. C'est-à-dire que parfois, d'ailleurs, je fais bas les masques et j'annonce à la lectrice et au lecteur que tout ce que je viens de raconter est faux. Donc tout est sujet à caution. Disons que
mais moi,
la
par
prise
exemple,
sur
cette
le réel...
Je suis pas sûre si je vous ai cru, par exemple.
Pardon ?
À cette fois-là, si vous parlez de la fin d'un court texte où on voit s'installer une sorte de routine pré-amoureuse entre un homme et un jeune homme sur une plage, tout se termine par « ceci est faux ». Et moi, je me suis dit « non, c'est faux ».
Jusque-là, vous pouvez ne pas me croire. Parce que, en fait, ce à quoi je voudrais qu'on croie, c'est à la fable. C'est tout. Je pense toujours, en la matière, je pense toujours à Duras, cette femme que j'aime tellement, à cette façon qu'elle a eue dans des livres successifs de raconter les mêmes situations, mais de façon toujours différente. Et parfois, certaines anecdotes qui paraissent assez... si romanesques qu'elles sont elles-mêmes sujettes à caution. Et je me dis, je m'en fous. L'idée, c'est que ça fasse fable par cette voix, par cette écriture. C'est ça, et c'est sans doute la littérature. Donc, je suis plutôt, ça me fait plutôt sourire, je trouve ça plutôt gracieux qu'il y ait tous ces moments où vous ne me faites pas confiance.
Et plein de moments où je vous fais
terriblement confiance et où d'un seul coup il y a aussi des ça note pas l'émotion en fait. Enfin d'ailleurs de ne pas faire confiance,
j'espère,
et d'avoir du vrai ou d'avoir du faux. Ça dit d'ailleurs ça au fur et à mesure des pages. Ce qui est questionné, je le disais aussi en introduction, c'est quoi le métier d'écrire ? Est-ce que c'est nécessairement dire du vrai ? Qu'est-ce que c'est que d'écrire de la fiction ? Que d'inventer des existences à des êtres qu'on aperçoit dans la rue ? Est-ce qu'il y a une éthique ? Est-ce qu'il y a une morale ? Tout à l'heure vous disiez le vice d'inventer des vies, mais c'est un jugement moral sur une pratique. Après tout, pourquoi ?
Parce que ce sont des questions que je me pose. J'ai jamais jugé quiconque. D'ailleurs, je lis beaucoup d'autofiction, beaucoup d'autobiographies, et j'ai de leçons à donner à personne, sinon à moi-même. C'est-à-dire, parfois, je suis embarrassé avec ce que je fais, notamment dans ce livre. J'aime ces embarras, tant pis. Mais ce livre, il vient après des années et des années où j'ai pratiqué la fiction parce que ça m'arrangeait bien, parce que j'étais gêné de kidnapper certaines vies et de me kidnapper moi-même, de m'apporter en place publique, parce qu'un livre c'est une place publique. L'idée, je n'étais pas à l'aise avec ça, et là c'est vrai que j'ai un tout petit peu dépassé la ligne jaune, hein, c'est comme ce que disait Cocteau, jusqu'où aller trop loin. Là j'ai cherché jusqu'où aller trop loin avec cette façon de kidnapper des gens de mon quartier, des gens de mon entourage, de ma famille et moi-même. C'est une expérience de laborantin avec laquelle je suis pas toujours à l'aise, mais dont je suis heureux qu'elle ait existé, parce que tous ces passages qui me gênent plus ou moins, ils étaient utiles au livre, je pense. Pour qu'il se passe quelque chose entre vous et moi, en fait. Parce que c'est ça, c'est une fois que le livre est parti dans les airs, est-ce que ça va être reçu ?
D'autant plus que l'embarras, il est écrit lui-même. C'est-à-dire que les moments où vous doutez de ce que vous êtes en train de faire, ou bien vous-même mettez à nu des ficelles dont vous n'êtes pas complètement fier, ou alors des a priori, par exemple, vous dites « si j'ose écrire à partir de telle ou telle personne dans mon voisinage, c'est parce que je suppose qu'elle ne me lira pas ». Que faire de cet a priori ?
C'est un a priori vraiment dérangeant, hein. En l'occurrence, il s'agit de mon voisin que j'ai pris en filature un jour et puis d'une caissière dans un supermarché. C'est assez terrible et ça me gêne de me dire que si j'ai osé l'écrire, c'est que je me dis que cette dame ne lit pas de livres qu'elle a priori dont je ne sais pas quoi faire. Alors plutôt que rien, je l'écris.
Et pourtant, ça voudrait dire que l'embarras est moindre lorsqu'on kidnappe, pour reprendre votre mot, des morceaux d'existence à des personnes dont on sait ou dont on suppose que ce sera peut-être des futures lectrices ou des futurs lecteurs. Ça vous enlève de l'embarras ?
C'est peut-être la bienveillance de mon regard qui m'ôte l'embarras. Parce que c'est un livre, in fine, qui est assez tendre, je pense.
Amoureux presque.
Ouais, parfois amoureux. Disons que ce qui me portait, enfin ce que j'avais en tête, c'est que sans aller jusqu'à une bienveillance ou une sympathie dégoulinante, il fallait toujours au moins de l'empathie. Mais ça, on connaît tout ça quand on a écrit, et vous-même, il faut se mettre à la place d'eux. Ça commence par là. Et d'ailleurs, ce que j'ai ôté du livre, et avec mes éditeurs, c'est souvent des textes qui étaient dans le jugement. Bizarrement, ça marchait pas quand je jugeais. Ça sonnait tout de suite condescendant, hautain, puis surtout, on n'avait pas du tout envie de suivre ma proie. J'en ai laissé un regard haineux, très très bref, sur un homme que je vois souvent en train de recompter sa liste de, enfin son addition là à la sortie du supermarché, comme s'il avait pu être arnaqué. Il m'agace souverainement. Alors j'ai laissé ça parce que c'est 10 lignes, et puis j'espère que ça inspire un sourire. Mais presque amoureux, je suis d'accord, parfois. Pourquoi pas ?
Vous diriez que tous ces gens-là que vous avez regardés, et on parlera de vous parce que vous avez aussi une place non négligeable, vous, un narrateur ou quelqu'un qui serait vous, Arnaud Catherine, tous ces gens-là, ils deviennent des personnages de fiction parce qu'ils passent par de la langue, parce qu'ils passent par un dispositif, ou est-ce que, et si la frontière est intéressante, ils restent dans un réel, brut, finalement inatteignable ?
Il y a de tout. Certains profils, silhouettes, visages me restaient nécessairement opaques, comme quand on regarde de nuit une fenêtre allumée, et on l'a tous fait ça aussi, et on s'imagine l'existence qu'il y a derrière. Bon bah, bien sûr, on va pas ouvrir la fenêtre ou briser la vitre, donc ça reste opaque. Donc là, l'imaginaire arrive, et donc ça devient des personnages de fiction, ça devient des projections de soi, de ses fantasmes, de ses trouilles. Et puis parfois, j'ai rien eu à faire. C'est-à-dire que parfois, le réel m'envoyait des choses tellement romanesques que j'étais juste script du réel. Et parfois, d'ailleurs, je mets en scène combien le réel déjoue mon imagination. Le livre a commencé par ça, un jour où j'étais dans un restaurant et où j'ai vu un père et son fils. Et je me suis imaginé tout un tas de trucs sur ce père et ce fils parce que je trouvais qu'il y avait une familiarité un peu distante entre eux. Et j'ai commencé à fantasmer que les parents avaient divorcé, qu'ils se voyaient pas souvent, et que, au final, ça ressemblait plus à un parrain et son filleul qu'à un père et son fils. Et puis, à un moment, j'ai baissé les yeux et j'ai vu les jambes enlacées sous la table. Et j'ai découvert qu'il s'agissait probablement de deux amants. En dépit de la différence d'âge, c'était manifestement deux amants. Donc là, mon imagination a été déjouée. Et ça m'a amusé aussi de le dire, de l'écrire. Donc c'est vraiment vous emmener dans un atelier.
Et c'est pour ça, cet atelier-là, quand vous dites il n'y a rien à faire, le réel, il apporte les choses, mais le réel apporte toujours les choses. Il y a beaucoup à faire après.
Il y a beaucoup de choses. Il y a rentrer dans le cadre.
Il y a rentrer chez soi, il y a faire avec la langue.
Oui,
il y a...
oui, complètement, bien
Donc
sûr.
On ne peut pas considérer que être script du réel, c'est ne rien faire.
Non. Ça, effectivement, je ne veux pas laisser entendre ça. Et puis d'ailleurs, tout au long du livre, parce que la part d'autoportrait n'est apparue qu'en cours de projet, ma subjectivité a commencé à affleurer en creux, puis j'ai interrogé ce regard, parce que c'est intéressant aussi de se dire, ce visage m'intrigue, m'aimante, pourquoi ? À quoi ça me renvoie ? Est-ce que ça me rappelle, est-ce qu'il y a un fantôme qui se trimballe derrière, en filigrane ? Quoi ? Et à force de me poser cette question, je suis rentré dans le cadre. Et c'est là que... je suis devenu l'un des personnages, je crois, du livre. Je dis personnage parce qu'une fois encore, tout est sujet à caution.
Et c'est plus facile de se dépeindre soi ou de dépeindre la caissière, le voisin qui vient mourir, les deux amants d'un resto italien ?
C'est beaucoup plus facile pour moi de regarder les autres pour une question de pudeur que j'ai un peu malmenée dans ce projet. Je l'ai fait à pas prudent et je ne regrette aucunement d'y être allé à pas prudent, parce que vraiment, vraiment, je me rends compte, et je le savais avant, mais quand on le traverse, on le sait autrement, que c'est quelque chose d'apporter une part de soi aussi franchement, une fois encore en place publique. C'est un drôle de truc.
Et quand vous dites « je regrette pas de l'avoir fait à pas prudent », c'est-à-dire « je regrette pas de l'avoir fait » ou « je regrette pas de l'avoir pas fait plus ouvertement », vous ne regrettez pas d'avoir été dans la mesure de ce dévoilement ?
Oui, parce que je crois qu'au fond, il y a cette pudeur que voilà, elle a toujours été là, elle demeure. Mais ce qui m'intéresse profondément, c'est pas l'autoportrait. Je crois pas. C'est la fable. C'est cette chose qui peut nous relier et qui peut induire que des choses nous relient. C'est l'identification de la lectrice et du lecteur. Comme moi-même, je m'identifie à mes cibles, à mes sujets, à mes beaux personnages. Voilà. Donc, j'aime l'idée d'être très sincèrement dans le livre, qu'il y ait de moi et dans les personnages et tout ça. Mais in fine, l'autoportrait est quelque chose qui désarmerait trop ma pudeur et qui, je crois, sur le fond, m'intéresse pas tant que ça. J'ai bien assez à faire sur le divan et ça ne regarde que moi.
Pour moi, la littérature n'a pas d'autre sens que d'être... Vous connaissez cette phrase de Kafka, que la littérature soit la hache qui brise la mer gelée en nous. Je crois que... Je sens la littérature, en ce qui me concerne, bien sûr. Je ne veux pas dire que toute la littérature doive être cela, mais je la sens comme... voilà, c'est ça, j'allais dire le couteau, peut-être. Je laisse la hache à Kafka, c'est bien pour lui. Voilà, disons le petit couteau. Pour... c'était provoquer cette espèce de... En moi-même, c'est ça comme ça que je veux. C'est que mes mots soient... que ce soit comme des pierres aussi. Pas du tout tourner autour. Écrire, pour moi, c'est atteindre vraiment la chose. Et donc, si je pense au sperme, j'écris sperme. Voilà. C'est vrai que j'ai ouvert le livre avec une scène de... d'un film classé X, regardé à Canal+, sans décodeur. Donc avec cette espèce sans doute d'aura peut-être un peu poétique que n'a pas le film classé X avec décodeur. Mais donc, ce sentiment que cette vision de l'acte sexuel avec un rapport très fort avec la littérature, que la littérature devait tendre à cette stupeur. Pas d'autre mot, je n'ai pas d'autre mot, c'est-à-dire rien, qui au fond est le sens de l'obscène aussi, hein, ce qu'on ne saurait voir, ce qu'on ne peut pas voir, que ça doit être ça. Mais ça ne veut pas dire ne parler que d'érotisme, bien sûr. On peut être, je veux dire, provoquer la stupeur avec des sentiments, c'est ça que je voulais au fond. Parce qu'après, il n'y aura pas de scène dans mon livre, il n'y aura pas de scène érotique. Il y a juste celle-là. Moi, je m'imagine toujours la littérature, l'écriture, comme une descente. Descendre quelque part, c'est arriver, ce n'y arrive pas comme ça. Arriver vraiment jusqu'à un point où finalement, il y a un autre langage, il y a quelques mots. Voilà.
Les jours où je trouve à écrire dans mon carnet, me vient le contentement bienheureux de qui a fait l'amour, et a bien fait l'amour. Et puis parfois, j'ai envie, très envie. Je pars en chasse, excité. Je guette, je cherche, une heure, parfois davantage. Mais la vie ne m'envoie rien ni personne. Ça ne mord pas. Où est-ce mon regard qui ne s'accroche à rien ? J'arpente la ville, la plage. Je déshabille le restaurant, le train, la rame du métro. Mais c'est tourné comme lion en cage. La perspective du festin s'éloigne tristement. Je m'acharne. Je croise une fille, un garçon, une femme, un vieux. Je fomente un début d'histoire. Dicte quelques mots à mon portable. Devinant confusément que ce livre n'en voudra pas. Les photographes doivent connaître pareille frustration. N'avoir pas été au bon endroit, au bon moment. Détresse de l'auteur sans sujet, du voleur sans objet de tentation. Je rentre alors chez moi, je rends page blanche, enfin ces mots-là, penauds, plutôt que rien.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Arnaud Catherine.
Arnaud Catherine, Romain de Bec de Lièvre lisait un extrait de votre livre « J'entends des regards que vous croyez muets » et juste avant, celle que vous avez appelée Annie, dès que l'archive a été lancée. En effet, 1992, au micro d'Alain Weinstein, Annie Ernaux, qui dit plein de choses, avec beaucoup d'humour et de précision sur ce que c'est qu'écrire, sur le début de l'un de ses romans. Et finalement, je trouve que la métaphore qu'elle utilise, peut-être à son insu ou pas, mais pour parler de la littérature qui est avoir un décodeur ou n'en avoir pas pour regarder un film pornographique sur Canal+, est assez intéressant. Peut-être pour revenir sur le rapport érotique qu'il peut y avoir à l'écriture, à la recherche du sujet, à ce qu'on entendait de la satisfaction d'avoir capturé du réel et de l'avoir bien fait. Je disais tout à l'heure que ça m'a semblé être un livre amoureux. C'est souvent le cas, je trouve, avec vos livres. Il y a souvent la sensation qu'il y a quelque chose d'amoureux, alors c'est peut-être parce qu'en fait il y a quelque chose d'érotique, peut-être plus que amoureux, mais en entendant Annie Ernaux que vous citez justement dans ce livre, vous avez quoi comme réaction ?
Alors, c'est peut-être un prisme un petit peu sottement psychanalytique, mais le désir qui s'incarne dans l'amour et dans l'érotisme et tout ça, c'est ça qui fait de l'écriture. C'est-à-dire que tantôt ça va dans nos amours, tantôt ça fait de l'écriture. Je pense que c'est la même charge exaltante qui se joue. C'est très lié. Je peux pas aller bien au-delà de cette. C'est même pas une intuition, de cette certitude que j'ai. C'est une sève qui monte en nous et qui s'exprime tantôt par la sublimation, comme on dit, de l'acte artistique, soit par le sublime ou moins sublime acte amoureux ou sexuel. Voilà.
Quand vous citez Ernaud justement dans votre livre et qu'elle intervient par ses propres mots à l'intérieur des vôtres pour dire « je me sens traversée par des vies, par des existences comme une putain », on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est... Oui, qui rapproche l'acte d'écriture ou la publication de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'elle fait, Annie Ernaud, dans votre livre ?
Annie Ernaud, elle est là comme comme une femme que j'admire infiniment, que j'ai beaucoup relue parce qu'elle a publié des journaux qui justement ne cessent de regarder l'extérieur, le réel, de prélever sur le réel avec sa façon à elle, sa précision, vous le disiez, qui parfois singe le neutre, qui n'est pas du tout. Mais bon, voilà. Moi, il y a une subjectivité que j'ai laissée entrer dans l'embrasure de la porte qui fait que ce livre est très différent. Et puis, de toute façon, je ne comparerai absolument pas ce livre à l'œuvre d'Annie Ernaud. Elle est là comme un phare, elle est là comme quelqu'un qui sait si bien regarder les autres et à une distance qui me reste énigmatique. C'est
la plus
la relie, la sienne, celle d'Annie Ernaud, qu'elle parle de ses parents, qu'elle parle d'une passion qui l'a bouleversée, qu'elle parle du RER. Elle parvient à se tenir et dans le dispositif stylistique et dans ce qu'elle dit à une juste distance qui m'impressionne tellement. C'est-à-dire que elle le disait tout à l'heure dans l'archive, quand il faut dire sperme, elle dit sperme. Quand un homme bat une femme, il bat une femme. Et pour autant, elle n'est pas dans un jugement capricieux où elle atteint une forme de vérité qui interroge vraiment notre distance par rapport au sujet et à quel mot on emploie. Enfin, voilà, je suis très très impressionné par cette œuvre. Et puis surtout, oui, je me disais en l'écoutant tout à l'heure, parce que je vous disais que l'autoportrait in fine n'était pas mon horizon, son livre Les Années, qui ne cesse d'entrelacer la grande histoire et l'histoire d'une femme, dit assez bien combien son projet, c'est quand même d'aller vers le collectif et l'universel, et de ne pas en rester à soi. Il y a cette très grande décence dans l'œuvre d'Annie Ernaud.
Oui, elle parle d'obscénité d'ailleurs, c'est intéressant. Elle dit, dans cette archive-là, elle parle d'obscénité, mais comme probablement quelque chose avec laquelle elle ne voudrait pas avoir affaire.
Puis il y a l'obscénité aussi de ce qu'on met à jour dans l'écriture. Dans l'écriture précisément, parce que c'est trop difficile de la formuler dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire. Il y a tout ça aussi qu'on dit dans les livres, et c'est pour ça que parfois c'est compliqué de s'en expliquer. Et il faut avoir des regards délicats et bienveillants en face de soi pour répondre à des questions, parce que ce qu'on dit dans les livres, si on les dit dans les livres, c'est qu'on n'est pas capable de les dire ailleurs. C'est ça aussi qui désarme notre pudeur. Et Annie Ernaud, elle se colle à cette obscénité de l'insupportable à dire dans l'espace du livre, quoi.
Mais sans pour autant faire de la littérature obscène. Et c'est
non,
vraiment ce qu'on
jamais.
Entend, en fait, dans cette archive.
Oui.
Puisque vous parlez de distance et que c'est aussi l'un des enjeux de l'observation du monde et des êtres que vous mettez à jour dans ce livre-là, Arnaud-Catherine, vous diriez que c'est une distance qui change en fonction des personnes que vous regardez et que vous écrivez. Mmh. Et où avec vous-même ?
Ouais, complètement. Et c'est ça qui fait aussi que je me suis beaucoup amusé. C'est sans doute un des livres où j'aurais eu le plus de plaisir. Et effectivement, parfois je suis à 2 centimètres dans un rapport quasiment amoureux, attiré. Parfois, la silhouette me reste totalement opaque. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, le corps me déjoue complètement ce que j'avais entrepris d'imaginer. Enfin, c'est d'être dans une petite foule, quoi, et d'être brinque-ballé. J'étais brinque-ballé et dans l'écriture de ce livre, donc surpris. Et c'est ce que je cherche après un certain nombre de livres, ni radoté, si possible, ni m'ennuyer, qui est la chose malheureusement que j'arrive le mieux à faire dans la vie. Donc sitôt que l'ennui point, je fuis. Et c'est pour ça aussi peut-être que la forme courte, depuis un certain nombre d'années, j'y reviens, parce que je peux me payer le luxe d'histoire sans lendemain, au fond. Voilà.
Profitons encore un petit peu de la présence de Annie Ernaux, parce qu'à la fin, il y a une page qui est consacrée aux remerciements, et vous commencez par les artistes. Vous commencez par dire que, en fait, il y a des gens qui mettent sur la piste de livres, et que c'est assez difficile de pouvoir prétendre qu'on y va complètement tout seul.
Ah oui. C'est merveilleux d'y aller avec.
Exactement. Vous, qui est-ce qui vous a mis sur la piste de ce livre-là?
Eh bien, précisément, ces gens que j'ai cités, je peux pas les citer tous là, mais évidemment, les dispositifs de Sophie Kahl, évidemment, Annie Ernaux, tous ceux qui font, qui comme ça, vont prélever sur le réel dans une démarche qui, in fine, n'est pas documentaire, mais très subjective, et qui part même dans la fiction. J'avais tendance, auparavant, vraiment à me laisser croire, parce que c'est une illusion, que mes personnages étaient vraiment des êtres de papier comme ça, que j'allais chercher dans des bouffées d'imaginaire pur. D'abord,
c'était
faux.
Sans faire le lien avec des prélèvements,
justement. Je m'en apercevais après. D'ailleurs, parfois, quand j'entends certains de mes vieux textes, je me dis, oh là là, je savais de moi quelque chose que j'avais pas compris à l'époque. On devient ce qu'on écrit. Ça, c'est très, très mystérieux. Bon. Mais de plus en plus, voilà, j'aime être sur le motif. Vraiment comme un, je sais pas, comme les peintres, comme quelqu'un qui dessine, quoi. Et ça, ce sont des auteurs aussi qui m'ont guidé pour savoir regarder en vrai.
Vous pensez à qui?
Bizarrement, je pense à un livre d'Olivia Rosenthal, Que font les reines après Noël, qui est quand même, bon, l'histoire de l'émancipation d'une jeune fille, mais entremêlée à toute une enquête très documentée sur les animaux en captivité. Voilà, par exemple, alors ce livre m'avait passionné, et voilà un livre qui m'a guidé en cela que la littérature est partout, possiblement. J'aurais pas regardé à cet endroit il y a 15 ans, je pense. Animal en cage.
Et justement, je m'attarde un peu sur cette question du regard, parce que j'ai aussi en tête...
Il est dans le titre, hein, donc oui, je vous comprends.
Exactement, puis j'ai en tête une scène dramatique où vous vivez la mort d'un homme par l'œilleton d'une porte qui donne sur le palier. Et en fait, c'est une sorte de métaphore de l'entièreté du livre. C'est qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut pas voir? Est-ce qu'il faut ouvrir complètement la porte? Est-ce qu'il faut regarder le réel que par un petit œilleton? Est-ce qu'il faut être derrière la vitre d'un café? Est-ce qu'il faut au contraire s'approcher très près et être très proche d'un visage?
Ben moi, ce que j'ai constaté, c'est que pour voir, il faut du vivant devant soi. Il y a deux morts dans ce livre. Effectivement, j'ai assisté à deux morts et je n'ai rien pu en faire. À chaque fois, c'est ce que je dis.
Des courts textes, quand même.
Des courts textes, mais aucun itinéraire, aucune... Un mort est mort, et si on ne le connaît pas, il est un inconnu. En tout cas, les morts ont résisté à ma tentative impérieuse de les inventer. Je me sentais totalement désarmé dans ces situations-là. J'ai même erré dans un cimetière, mais là pour m'apercevoir que ce qui est vraiment fascinant, et ça aussi on est beaucoup à le vivre, ce qui est réellement fascinant dans les cimetières, c'est juste la juxtaposition de deux dates. Et ça fait fable déjà, il n'y a rien besoin de rajouter. Vous savez, c'est comme ces faits divers qu'on peut lire dans les journaux. Ils sont parfois plus puissants sur quatre lignes que lorsqu'on en fait un livre.
Il y a une fable au milieu des fables qui sonne pas exactement comme les autres.
Courchevel, son domaine skiable, ses hôtels aux étoiles innombrables, ses enseignes luxueuses. En fin de journée, douchés, habillés de frais, nous suivons nos parents en ville. Soit que c'est le soir du cinéma, soit que nous reluquons les vitrines. J'ai 15 ans. La scène va durer une dizaine de secondes tout au plus. Il n'empêche. C'est la première fois que je vais faire l'expérience de l'effroi. La peur, je connais. J'ai été un enfant comme tout le monde. L'effroi, c'est encore autre chose. Nous marchons côte à côte, Romain et moi. Je vois le garçon arriver en sens inverse. Je me fige. Je le dévisage, sidéré. Une poignée de secondes, donc. Je me retourne. De dos, l'effet est fortement atténué, mais rien n'y fera. Puisque je l'ai vu de face, je ne peux plus revenir en arrière. Je me mets à courir. Non pas vers le garçon, surtout pas. Je cherche au contraire à fuir cette vision. Puis je rebrousse chemin, aussi piteux que terrorisé. Personne ne s'est aperçu que j'avais disparu. Romain me confirmera un peu plus tard qu'il n'a pas vu le garçon, et c'est laborieux, frustrant, de devoir m'escrimer à lui expliquer ce que je viens de vivre. C'était moi, dis-je d'une voix haletante. C'était mon exact sosie, je te dis. Romain fronce les sourcils. Il doit trouver mon délire relativement inintéressant. Je lui explique que ça a été effroyable de me voir en vrai, en double. Comment dire ? Ce jour-là, à Courchevel, je découvre donc qu'un garçon existe qui me ressemble trait pour trait. Je ne saurais jamais qui il est, mais si je devais tenter une nouvelle fois de qualifier la nature de cette rencontre, je dirais que c'est à peu près l'idée que je me fais de la mort.
Vous disiez tout à l'heure, Anne-Catherine, il y a quelques fantômes dans ce livre-là. Mmh. Et allez savoir pourquoi, cette fable au milieu des fables, moi je l'ai lue comme presque une sorte de pierre magique, quoi. Comme si c'était la fable qui dictait tout le reste. L'apparition d'un double, celui qu'on voit et qui dit notre mort et notre existence à la fois. Elle est arrivée à quel moment dans l'écriture du livre, cette fable-là ?
Elle est arrivée après pas mal d'hésitations parce que je comprends pas tellement ce que j'ai écrit là. Je comprends pas tellement la fin. Je ne sais pas pourquoi d'avoir croisé ce sosie m'a déjà à l'époque, c'est pas du tout a posteriori, mais m'a à l'époque inspiré un sentiment de la mort. Les jumeaux ricaneront en entendant ça. Je ne sais pas. J'aime votre hypothèse. La question du double, parce qu'elle ne cesse de traverser tout le livre.
Tout le livre, hein, quand même.
Même
qu'est-ce
mon
qu'on
double.
Reconnaît, qu'est-ce qu'on ne reconnaît pas, qu'est-ce
ouais,
qu'on cherche.
Et puis, est-ce que quand je parle de moi dans ce livre, c'est pas un double réinventé, sans doute. Donc, ça fait sens tel que vous l'énoncez, et merci. Après, vraiment, ce texte, il me résiste. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pour ça que j'ai hésité, mais je me suis dit ça. Je me suis dit... pourquoi pas laisser cette chose qui me résiste et qui m'est un petit peu insondable. Ce que j'ai pas mis dans le texte, parce que ça aurait pris toute la place, c'est que j'ai trouvé ce garçon, ce sosie, extrêmement laid. Ça, je vous le dis pour qu'on sourie ensemble. Mais ça aurait pris trop de place, donc je l'ai pas mis.
Qu'est-ce qui, de ces histoires-là, qui sont les vôtres ou les histoires de votre double, Arnaud-Catherine, qu'est-ce qui présidait à leur apparition ? Parce que finalement, vous décriviez une sorte de dispositif. Après tout, les autres histoires, elles peuvent naître, si on vous croit, si on fait l'hypothèse qu'on vous croit, ben d'une promenade à Arcachon, d'une plage, d'un café à Paris ou ailleurs. Bon, ok. Mais comment arrivent les autres ? Parce que vous, des histoires dans votre vie, il y en aurait plein à raconter.
Ouais. C'est comme si on interrogeait un metteur en scène sur pourquoi il a voulu faire ce film avec telle actrice et tel acteur. Parce que je pense que c'est vraiment ça. On l'interrogeait tout à l'heure, cette question-là, en parlant d'un regard amoureux, d'un regard... c'est amoureux avec un grand A. C'est... est-ce qu'on a envie de faire jouer dans son film ou au plateau telle ou telle personne ? Est-ce qu'on désire avec un grand D ? Est-ce qu'on aime avec un grand A ? Ce corps, est-ce qu'on a envie de le regarder incessamment ? C'est très mystérieux, ça interroge un désir profond, un désir artistique. Donc je sais pas comment ces gens débarquaient, inopinément au coin d'une rue, des petits miracles.
Mais moi je parle de vous, comment vous vous débarquez ? Comment les petits bouts d'histoire qui sont les vôtres ou celles de votre double arrive dans ce livre. Il pourrait y avoir plein d'épisodes. Il pourrait y avoir votre déj de tout à l'heure. En fait, non, c'est un souvenir de Courchevel. Il pourrait y avoir votre soirée de ce soir. Et en fait, non, c'est une séance chez l'analyste. Donc, comment est-ce qu'elles ont rythmé l'écriture de ce texte-là? Selon quelle élection, pour reprendre le
mot?
Alors,
ce sont des choses qui sont venues dans un mouvement très inconscient, comme toutes ces choses qui nous reviennent et on ne sait pas pourquoi. Et bon, ce sont des moments importants. C'est une réponse un peu sommaire et banale, mais c'est ça. Oui, quand je me rends chez mon analyste et que je confonds une guitare avec une Kalachnikov et que je me dis ça y est, ça recommence. Oui, quand je rêve que je recroise l'ami perdu. Voilà, autant de un souvenir traumatique de mon père qui m'a raconté sont des choses importantes. J'espère qu'il y a de la légèreté aussi dans ce livre, qu'il y a de l'humour. Mais ce que j'entendais exhumer de moi, c'était des choses qui peut-être sont des balises importantes dans mon itinéraire, et il y en aurait plein d'autres. C'est difficile de répondre à votre question parce que est-ce que c'est une élection réellement? J'ai fait avec ce qui venait, et donc les gens, je les croisais, mais il y a aussi des choses de moi que je croisais. Par hasard, tiens, on s'était pas vu depuis longtemps.
C'est ça, en fait, c'est faire avec ce qui vient, que ce soit les gens dans la rue ou que ce soit les pensées...
À charge pour nous d'ordonnancer tout ça, de couper, de supprimer, de changer l'ordre, songeant au lecteur et la lectrice, comme on fait un album de musique. Où est-ce qu'on met le single, où est-ce qu'on met la chanson douce, etc. Ça, c'est très ludique aussi. Et on s'y est employé avec mes éditeurs et on s'est bien amusé. Ne pas mettre deux scènes de café à coller, deux scènes de train côte à côte. Voilà.
C'est rare que vous soyez complètement loin de la musique, Arnaud Catherine, ça tombe bien.
Ouais, ça arrive jamais.
Non, mais c'est vrai, ça tombe bien que ce soit vous qui y veniez, parce que, évidemment, au départ, on voit pas que ces courts textes ont des titres, et puis le livre se termine, et puis on a la liste des titres, et ces courts textes, ils peuvent en effet être des chansons, ou bien c'est plus fort que nous parce qu'on vous connaît un peu, ou bien c'est parce que ces textes-là vont vers ça, vers le court. Vous diriez que c'est quoi, en dehors d'une précédente vocation, votre rapport entre écrire des courts textes et ce que vous savez faire avec des chansons?
Alors, je me suis amusé, ça c'est un emprunt, c'est un transfuge. Je me suis amusé, quand tout a été terminé, à reprendre tous les textes et à vouloir leur donner des titres. Et ça, c'est vraiment m'amuser comme on intitulerait une chanson, en essayant de créer des effets d'écart, des distorsions entre ce que dit le texte et moi, comment je l'intitule. Après, rien à voir avec l'écriture de chansons. Plus les années passent et plus je m'aperçois que c'est la chose la plus difficile. Et mon admiration à tous les auteurs de chansons, c'est la poésie, quoi. Et donc là, on reste vraiment dans la prose. Peut-être qu'il y a des petites fulgurances poétiques, hein, qui sait. Mais vraiment, ça reste de la prose.
Et on ne peut pas faire de chansons avec la prose.
Si. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce livre reste de la prose, et que ce soit la prose au long cours, roman, ou que ce soit des textes courts, c'est le rythme qui change et c'est l'audace de l'histoire sans lendemain, et je passe à autre chose. Mais c'est pas tellement une question, je relis pas ça à la chanson en fait, parce que plus ça va, plus je m'éloigne en tant qu'auteur de la chanson. Je trouve ça trop difficile et je laisse ça à tous ces gens que j'aime, Dominica, Jeanne Chéral, Florent, Barbara Carlotti.
Ah bah j'y vais alors. Mabillon, 19 mai 1978, il est 10h-20. Le temps est pluvieux. La circulation est plutôt fluide. La plupart des gens ont leur parapluie ouvert. Je suis au carrefour Mabillon. Je vois devant moi l'amorce de la rue du Four. La portion du boulevard Saint-Germain comprise entre Mabillon et Saint-Germain-des-Prés. Et en tournant un peu la tête, la rue de Bussy. Une femme passe avec un imperméable rouge, une autre avec un cabas. Un autobus 86. Un camion de fruits et légumes, Charles Prévost. Le feu sur le boulevard Saint-Germain devient vert. Passe le 86 qui porte une publicité, les cocotiers sont arrivés, Galerie Lafayette. Une camionnette blanche, un camion Citroën bâché vert, des taxis, une camionnette bleue, encore des taxis. Au feu rouge de la rue du Four, une mobylette s'arrête avec un homme qui porte une combinaison orange. Une fille à vélo avec une sorte de survêtement jaune. Sur le boulevard Saint-Germain s'arrête une camionnette des postes. Passe une camionnette GRP, une autre qui transporte du bois. Dans l'autre sens, une camionnette Diffusion Princesse. Sur le boulevard Saint-Germain, passe un autobus 63 et un autobus 96 qui porte une publicité pour Véronique Sanson.
En dehors de contenter Valentin Rémy qui est en stage avec nous pour quelques mois, Arnaud Catherine, le fait de faire entendre Véronique Sanson derrière Georges Perec, c'est dire que la description du réel a une puissance performative, que les choses apparaissent quand on les décrit. On faisait entendre un extrait de cet ACR où Georges Perec se met au Carrefour Mabillon à Paris et dit « Ok, j'y vais et je décris ». Parce qu'il y a dans ce livre-là, on a dit donc beaucoup d'êtres, beaucoup de personnes dont vous attrapez les visages et les corps, les histoires, mais aussi beaucoup de lieux. Et ces lieux-là, ils ont une façon d'être là qui est un peu magique, quoi, un peu performatif. Je sais pas, l'hôtel des Roches Noires fait peut-être apparaître Marguerite Duras.
C'est le cas.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire ?
Oui,
un café dans un quartier où vous n'habitez plus, fait peut-être apparaître pour nous au détour d'une virgule la vie d'avant, le regret, le passé, le temps qui passe. Voilà, comme si les lieux, vous les décriviez avec une minutie qui fait qu'ils s'animent.
On en revient au regard amoureux. Mmh. C'est vous qui avez commencé avec cette histoire qui est juste l'amour des lieux. On parle beaucoup d'histoires d'amour dans les livres. Un peu plus rarement, et c'est regrettable, d'histoires d'amitié qui peuvent être tout aussi fortes. Moi, j'ai des histoires avec les lieux et nous tous, nous avons des histoires d'amour avec les lieux. Mais avec des phénomènes de coup de foudre, avec des phénomènes de grande rupture, avec des phénomènes de lassitude, j'aime parler de ça. Et effectivement, les lieux sont extrêmement importants, que ce soit le bassin d'Arcachon, la Normandie, Paris, cette ville avec qui je bataille, avec qui un vieux couple un peu compliqué parfois. Donc ça traverse tout le livre, c'est extrêmement vraiment important pour moi. Et peut-être qu'un jour, j'aurai l'audace peut-être de n'écrire que là-dessus, sans personne. Des déserts de lieux, mais des lieux aimés, chéris.
Mais c'est presque le cas. Je veux dire, bien sûr, on l'a dit, toute l'importance des hommes et des femmes plus ou moins jeunes qui apparaissent dans ce livre-là. Mais en fait, parfois, on arrive presque à faire abstraction d'eux. C'est-à-dire que quand il y a cette rencontre plus ou moins réelle sur des plages du Sud-Ouest, à un moment donné, ça devient aussi les plages du Sud-Ouest, quoi. Enfin, on voit aussi, ou alors Guiraudy qui filme des abords d'un lac. Enfin, je sais pas comment dire, ou presque que le café, quoi. Comme si vous y parveniez d'une certaine manière. Mais alors, est-ce qu'on peut s'attarder sur cet endroit des Roches Noires, puisque apparaît vraiment Duras? Vous avez quoi comme lien avec ce lieu, et peut-être dire ce que c'est pour les personnes qui ne le connaissent pas?
Ah, ça, c'est un des petits miracles de l'écriture. On peut totalement affabuler. Mais alors là, vraiment dans des proportions. Donc, les Roches Noires, c'est un bâtiment très massif qui est sur la plage à Trouville, et là a résidé Marguerite Duras avec Yann Andrea. Et bon, moi, j'ai ma maison de famille pas très très loin, et je vais souvent me promener en bas des Roches Noires. J'ai toujours donc un regard vers l'endroit où était l'appartement de Duras. Et donc je me suis payé le luxe là de faire apparaître Duras et de m'inventer une heure comme ça, passer avec elle, à parler à bâton rompu sur un banc en regardant la mer. Alors, dans les faits, je suis allé chercher des vraies phrases à elle, dans des livres à elle, dans des entretiens, mais j'ai tout rafistolé, retraficoté pour que ça fasse un dialogue entre nous. Voilà, donc j'aurais passé une heure, un jour, à Trouville, avec Marguerite Duras.
Comme un vrai souvenir.
Ouais, ça c'est pas mal. Vous savez, c'est comme quand on se réveille d'un rêve, et qu'on a la conscience que c'est un vrai substitut de réel. Enfin, je veux dire qu'on le porte réellement, on l'a vécu. Eh bien, il y a certaines choses qu'on lit ou qu'on écrit, qu'on aura vraiment vécues aussi, qui seront des parts vraiment de notre existence. Donc,
Et là, vous n'écrivez pas en toutes lettres que c'est faux. Vous écrivez en toutes lettres que oui, ben vous n'avez pas eu de...
Je dis même pas son nom de famille, je l'appelle Marguerite, parce que c'est une amie maintenant. Mais réellement, je veux dire, puisqu'il ne se passe pas une semaine sans que je n'écoute une archive, je collectionne toutes les archives INA et sur Duras et sur Pontalis et sur Sagan, voilà, vous saurez tout. Et donc il y a pas une semaine où je passe pas un moment avec elle, lui ou elle. Donc c'est une amie.
Elle vous dit des choses comme disent les amis, c'est-à-dire des choses à la fois très belles et très difficiles à entendre.
Ouais.
Que ça sert à rien de vouloir se débattre avec le désespoir, puisque de toute façon c'est là-dessus qu'on construit.
C'est le nid, le désespoir.
C'est la maison. Ouais. C'est la maison, ouais, dit-elle. Vous lui posez quoi comme question à Duras?
Nous parlons à bâton rompu de la mer, des chevaux qui passent, de là à ce que je puisse rentrer dans un état où je peux entendre ce qu'elle a à me dire de brutal. Notamment sur l'amour, sur plein de choses. Parce qu'elle est assez brutale, Marguerite. Françoise, Sagan, est tout aussi profonde, mais elle fait montre de légèreté, une fausse légèreté. Ils sont pas, elles, c'est deux femmes très différentes.
Il faut avoir plein de gens différents dans ces bandes de potes. Et alors, J.B. Pontalis?
Et Pontalis, on parle beaucoup de psychanalyse ensemble, évidemment. Est-ce que ça répare vraiment, ou est-ce que ça nous conduit à vivre avec, enfin, des grandes problématiques sur l'analyse au long cours. Je l'interroge souvent, Pontalis, vous avez vu comme je me prête au jeu, j'y crois vraiment. Hein. Je l'interroge souvent sur la modestie qu'il a à l'égard de son métier d'écrivain. D'ailleurs, il disait, il n'aurait jamais voulu dire qu'il était écrivain ou mettre ça sur sa carte d'identité. Il a une humilité, Pontalis, qui me fait du bien, et je l'interroge toujours là-dessus.
Comment parles-tu de toi? Ah oui.
Comment parles-tu de toi maintenant, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après? Dirais-tu que tu es écrivain aujourd'hui? Combien de patients as-tu encore en analyse? Est-ce que tu prends des nouvelles personnes? Voilà.
Pour vous, c'est important de savoir s'il faut parler de soi en tant qu'écrivain ou pas. L'écrivain comme une sorte aussi de statut dans le social, dans le corps collectif, dans la société.
Moi, j'aime plutôt l'idée, oui, que l'écrivain soit vu comme quelqu'un qui mérite un statut, parce qu'on est aujourd'hui, mais là, ça parle de tous les artistes, dans une vraie précarisation de tous ces métiers-là. paupérisation. Donc c'est plutôt pas mal que oui, que le CNL à un moment dise tiens, un auteur qui va parler de son œuvre sera payé. C'est ça que j'entends hein, par la question du statut et de la place. Après, qu'est-ce qu'on est? Comment doit-on se qualifier? Oh, c'est difficile. Au moment où je suis là, moi, ça changera peut-être. J'ai tendance à dire je suis auteur, parce qu'il y a aussi les films, les spectacles, et interprète. Ça, c'est un mot qui a débarqué à force de faire de la scène, et j'ose maintenant le dire. Interprète pas de Monsieur Racine, interprète de mes petits textes à moi.
Mais on peut aussi entendre ça d'un point de vue beaucoup plus psychanalytique, de l'interprétation.
Complètement.
Et de l'interprétation du réel, qui passe, à qui on invente une vie.
Complètement.
On interprète un regard.
C'est vous qui m'y faites penser à l'instant, mais je repars avec, ouais.
Est-ce qu'on peut parler de ce titre pour terminer, Arnaud-Catherine? J'entends des regards que vous croyez muets.
Bah justement, je citais Racine, c'est peut-être pas un hasard. C'est un vers de Britannicus qui est au futur dans la pièce. Et c'est ma meilleure amie, toujours elle, que j'ai déjà évoquée, qui me l'a soufflé parce que mon titre de travail était caduque, impossible. C'était « Journal d'un voleur ». Non pas « Journal du voleur » comme chez Genet, mais « Journal d'un voleur ». Bon, non, impossible.
Parce que trop de références à Jean Genet.
Oui, trop proche. Et puis en plus, Genet ne met rien. Ou pas grand-chose. Donc ça avait pas de sens. Et elle m'a soufflé ce vers que je trouve magnifique.
Donc, n'est rien pour vous, c'est
ouais,
ça? Ne met rien dans ce sens-là.
Ne met rien.
Je crois que vous disiez qu'il mettait rien dans son livre.
C'est pas un auteur, c'est un auteur très digne de ce nom, tout ce qu'on voudra.
Mais n'est rien pour vous.
Pas un auteur qui me touche particulièrement. Et voilà. Et donc elle m'a soufflé ce vers, j'entends des regards que vous croyez muets. Et j'ai vu mon projet. Faudrait changer ce mot-là aussi. Momentanément, en tout cas. J'ai vu tout mon livre résumé. En une ligne. Et voilà, donc lui, ce titre, je l'ai élu pour employer un mot que vous avez employé tout à l'heure et que je discutais.
Qu'est-ce que ça veut dire que ça s'écoute, des regards?
Ah, la musique, toujours. J'ai écouté aux tables à côté aussi. Hein. Je me suis emparé de sons, je me suis emparé de paroles. Il y a ça dans la nasse, il n'y a pas que des visages, il n'y a pas que des images. Il y a des choses qui m'ont aiguillé, guidé par le son. Puis il y a le bruit de l'océan.
Merci beaucoup Arnaud-Catherine. J'entends des regards que vous croyez muets, donc aux éditions Verticales. Puisque vous êtes interprète, il y a peut-être un moment où on pourra vous écouter bientôt, sur scène.
À Arcachon, à l'hôtel de la Ville d'Hiver, le 15 juin.
Rendez-vous est pris.
Voulant ma douce moitié t'assurer que mon amitié ne sera jamais fini. Je fus pourtant assuré mieux. Un serment juré par mes yeux et par mon cœur et par ma vie. Tu jures ce qui n'est à toi. Ton cœur et tes yeux sont à moi. Une promesse irrévocable, ça me dis-tu, hélas, au moins. Reçois mes larmes pour témoin que ma parole est véritable.
À la prise de son ce soir, c'était Valérie Lavalard. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand, grand merci et vraiment beaucoup d'amour à Romain de Bec-de-Lièvre, Jeanne Aléos, Camille André, Valentin Rémy, Marianne Chassor qui mettent à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, c'est le journal, 22h sur France Culture. Et quand vous voulez, franceculture.fr à la page de Parlez-Temps qui court, le lien vers les musiques, les archives et plein d'autres choses, notamment le podcast. À demain soir. Ah.